Merci de prendre place. La Bible contient beaucoup de promesses, et plusieurs sont de la bouche de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quelle promesse ! Une promesse que Jésus a faite dans un contexte où il parle de prière. En effet, ce dont il est question ici et dans les versets qui entourent ces deux versets, c'est de prière, de réponse à la prière, de certitude d'être exaucé. Comme nous allons le voir dans quelques instants, Jésus garantit ici l'efficacité de la prière. Mais voilà, comme souvent, nous constatons un décalage entre ce que dit la Bible ou Jésus et ce que nous expérimentons parfois. Nous demandons et nous ne recevons pas toujours. Nous cherchons sans toujours trouver. Nous frappons, mais certaines portes restent résolument fermées. Et pourtant, Jésus a bien dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Que faut-il comprendre? Que faut-il en déduire? Que faut-il conclure? Je propose ce matin de réfléchir à ce texte avec son contexte et en particulier à la question « Dieu exauce-t-il toujours nos prières ?» Dieu exauce-t-il toujours nos prières ? Notre texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Je lis dans la Nouvelle Bible Second les versets 5 à 13. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Il leur dit encore, il c'est Jésus bien sûr, qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Notre passage vient à la suite de la prière du Notre Père, au début du chapitre 11. C'est donc avec l'enseignement de cette prière du Notre Père en tête qu'il faut aborder ce passage. Nous pouvons discerner 4 parties dans le texte que je viens de lire, une parabole dans les versets 5 à 8, une promesse, les versets 9 et 10, une analogie, versets 11 et 12, et puis une promesse spécifique, au verset 13. Commençons par la parabole. Elle ne se trouve que dans l'évangile de Luc. Et je relis les versets 5 à 8. Il leur dit encore, « Qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur l'autre lui répond, « Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et il lui donnera tout ce dont il a besoin. » C'est l'histoire banale d'un homme qui se retrouve sans provision pour accueillir un ami arrivé tard dans la nuit. L'hospitalité étant un devoir sacré au Moyen-Orient, notre homme se rend, malgré le fait que ce soit le milieu de la nuit, se rend chez son voisin, qui est aussi son ami, pour lui demander trois pains. Il est fort probable que notre voisin, réveillé au milieu de la nuit, soit de condition modeste, et que toute la famille vivent dans une seule pièce, comme c'était généralement le cas. Souvent un peu en hauteur, avec même les animaux au ras du sol. Se lever pour donner les pains demandés équivaut à réveiller toute la famille si elle n'a pas été réveillée par le voisin. Et ainsi on comprend aisément la réponse de notre homme, « Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux me lever pour te donner des pains. » Notons que notre homme ne rechigne pas au sujet de l'objet de la demande. Il est normal d'accéder à la demande de son ami et de lui donner les pains qu'il demande s'il les a. C'est le devoir sacré de l'hospitalité. Les règles si importantes de l'hospitalité et de l'amitié l'exigent. Ce qui l'embête, c'est d'être dérangé au milieu de la nuit. C'est de devoir se lever. C'est de devoir réveiller certainement tous les siens. Et pourtant, il va accéder à la demande de son ami. Et même, dit Jésus, s'il ne se lève pas parce qu'il est son ami, il va le faire à cause de son insistance effrontée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le demandeur a insisté. Il a insisté sans se gêner. Il a insisté alors que c'était le milieu de la nuit. Il a insisté et il va recevoir les trois pains à cause de son insistance effrontée. Ce qui est souligné ici par cette expression « insistance effrontée », expression que d'autres ont essayé de traduire par « à cause de sa propre honte », mais c'est quand même moins probant, ce qui est souligné donc, c'est son attitude, c'est sa persévérance. C'est son insistance, c'est le fait qu'il ne s'est pas découragé après le refus initial. C'est le fait qu'il est resté jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il était venu chercher. Deux erreurs sont souvent faites dans l'interprétation des paraboles. Elles sont liées l'une à l'autre. Il y a premièrement la tentation de l'allégorisation, c'est-à-dire de chercher à donner un sens spirituel à chaque détail de l'histoire. Et puis, il y a la tentation de donner un sens spirituel ou pas à tous les détails du récit. En réalité, la parabole est une histoire simple qui fonctionne sur le principe de l'analogie et qui vise à enseigner une vérité. Pas deux, pas trois, pas plusieurs, une. Un enseignement principal, une idée maîtresse. Et ainsi, tous les détails de la parabole n'ont pas forcément d'autre sens que celui de servir l'histoire, que celui de servir cette idée maîtresse, l'enseignement principal. Quel est l'enseignement central de notre parabole ? C'est celui de la persistance ou de la persévérance dans la prière à laquelle Dieu répond toujours. Voilà ce que souligne cette petite histoire qui va être confirmée par la suite du texte. Cela signifie que notre parabole n'est pas là, par exemple, pour nous enseigner, cette parabole, pour nous enseigner quelque chose de la nature de Dieu. Bien sûr, le voisin représente Dieu dans l'histoire, mais il faut que l'analogie s'arrête là. Dieu ne ressemble pas à ce voisin. Ce voisin n'est pas là dans l'histoire pour nous dire en détail qui est Dieu et ce qu'il fait. Nous ne dérangeons pas Dieu quand nous prions. Et c'est là la limite de l'analogie. Nous ne lui cassons pas les pieds quand nous persévérons. Nous ne le faisons pas céder à force d'insister. Et on pourrait multiplier ainsi. Toutes ces compréhensions que l'on pourrait déduire de notre histoire et que certains déduisent de notre histoire ne font pas partie de ce que cette parabole veut nous enseigner. Jésus ne l'a pas raconté avec cette visée, mais pour nous dire une chose, Dieu répond toujours à la prière persévérante. Oui, Dieu répond à la prière persévérante. Et nous comprenons, au travers de cette histoire, que Dieu désire que nous persévérions. Quand il ne répond pas tout de suite à notre requête. Comprenons bien ici que ce qui est dit n'est pas que Dieu ne veut pas donner et qu'il doit être forcé à le faire par notre insistance. Tout le contexte nous montre qu'il ne s'agit pas de cela et que Dieu est prêt à donner. Le véritable enjeu ici, c'est nous. C'est notre motivation, pas celle de Dieu. Est-ce que je désire véritablement ce que je demande ? Est-ce que ce que je demande est suffisamment important pour moi pour que je persévère jusqu'à ce que Dieu me réponde ? Si je regarde ma vie et ma vie de prière, je constate qu'elle manque trop souvent de persévérance. Et en face de cette parabole, je suis repris. Car je comprends que si Dieu ne répond pas à certaines de mes prières, c'est parce que je ne persévère pas. Que si je ne persévère pas, c'est aussi parce que ces requêtes ne sont peut-être finalement pas si importantes que cela pour moi. Parce que si elles l'étaient, eh bien je persévérerais. En fait, notre vie de prière est parasitée par beaucoup de choses. Par notre paresse spirituelle, par exemple, par notre égoïsme, par notre incrédulité. Je m'arrête là, mais nous pourrions allonger la liste. Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu de grâce. Et il ne nous traite pas selon nos mérites. Sinon, nous ne recevrions pas grand-chose. Il arrive même que Dieu réponde à nos prières alors même que nous n'avons pas persévéré. Il le fait à cause de sa bonté et à cause de sa grâce. Mais attention, il ne faut pas que cela nous conduise à un matelas de paresse spirituelle. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous prions, et ce qu'il veut, c'est que nous persévérions dans la prière. Attention à ne pas trouver dans la grâce de Dieu une occasion de chute, ce qui est quand même paradoxal. Une occasion de mal faire à l'instar de ce que Paul dit quand il souligne que ce n'est pas parce que la grâce surabonde là où le péché a abondé qu'il faut que je pêche. Et de même, ce n'est pas parce que Dieu exauce parfois alors même que je n'ai pas persévéré qu'il ne faudrait pas que je persévère dans la prière. Ce que notre histoire nous enseigne, c'est que Dieu n'exauce pas la tiédeur de nos prières, mais il répond à notre persévérance. Il est prêt à nous exaucer dans la mesure où nous montrons que cela est important pour nous. Et pour enfoncer ce clou-là, il y a le verset 9 et 10. Les versets 9 et 10. Notre parabole conduit à cette promesse que je citais en introduction. Eh bien, moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve et à qui frappe, on ouvrira. Ce que je retiens de cette promesse déclinée par les trois verbes, demander, frapper et chercher, c'est qu'il y a à chaque fois une réponse. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, se voit ouvrir la porte. Nous notons que les verbes dans le grec soulignent une action continue. C'est important. Et ça veut dire que Jésus ne parle pas ici d'action unique, mais d'action répétitive, d'action persistante, d'action persévérante. Il parle en réalité d'ici, de ce qu'il vient de dire dans la parabole. Ainsi, celui qui reçoit n'est pas celui qui demande une fois, même si par la grâce de Dieu ça peut arriver, mais celui qui demande avec persévérance. Celui qui trouve n'est pas celui qui cherche une fois, mais celui qui cherche avec persévérance. Et celui à qui on ouvre n'est pas celui qui frappe une fois, mais celui qui frappe avec persévérance. La promesse est formulée de telle manière à souligner la certitude de la réponse. Il n'y a aucune ambiguïté possible dans ce texte. D'ailleurs, la répétition du verset 10 vient souligner cette certitude. Une des choses sur lesquelles je voudrais insister ce matin est le fait que Dieu n'a pas besoin d'être forcé et que ce n'est absolument pas ce dont il est question ici. Il est toujours prêt à donner de bonnes choses à ses enfants. Il le promet ici, mais il désire que ses enfants fassent leur part. Alors, il est temps maintenant de répondre à la question que beaucoup se posent. Depuis un certain temps, j'en voyais certains qui gigotaient. Peut-être que cette question vous travaille et c'est normal. Ce passage enseigne que Dieu promet l'exaucement à la prière persévérante. Et pourtant, nous avons tous plusieurs exemples, peut-être même beaucoup d'exemples, dans notre propre vie, dans la vie de nos frères et sœurs en Christ, où Dieu n'a pas donné ce qui était demandé. Comment est-ce que on trouve une cohérence à tout cela? Comment est-ce qu'on concilie ces deux réalités? Il y a deux choses importantes à dire ici. La première, c'est que certaines des non-réponses de Dieu à nos requêtes, si j'ai bien compris ce passage, viennent de nos manques de persévérance. Ça, c'est une première chose qu'il faut dire. La deuxième, c'est que Dieu promet de toujours répondre à nos prières et non pas de toujours nous donner précisément ce que nous demandons. Il y a une nuance et c'est une nuance importante. Jésus ne dit pas que si nous prions, nous recevons toujours exactement ce que nous avons demandé. Vous pouvez relire le texte, c'est pas dit comme ça. Dieu veut toujours notre bien. Il fait d'ailleurs concourir toutes choses pour notre bien. Notre bien, c'est bien plus que juste le moment présent. Notre bien, dans la pensée de Dieu, c'est jusque dans l'éternité. Et parfois, ce que nous demandons n'est pas pour notre bien. Ne résulterait pas en bien pour nous dans la perspective de l'éternité. Parce qu'en fait, notre vision est limitée. Et puis, notre volonté n'est pas toujours la bonne, n'est pas toujours bonne. C'est la volonté de Dieu qui est toujours bonne, agréable et parfaite. C'est pourquoi nous devons apprendre à formuler nos requêtes dans la soumission que Jésus nous a montrée dans sa prière à Gethsémané. Nous devons dire à Dieu nos demandes, nos besoins, lui faire connaître nos besoins, lui dire ce que nous désirons, lui dire même notre volonté, mais nous devons le faire dans la soumission à sa volonté. Toutefois, disait Jésus, après avoir demandé que la coupe s'éloigne de lui, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Parfois, les deux volontés convergent, celle de Dieu et la nôtre. Parfois pas. Parfois, Dieu nous accorde ce que notre cœur désire. Parfois pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous croyons que par la foi, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours le meilleur pour nous. C'est toujours la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. C'est bien évidemment facile à croire et à accepter quand la volonté de Dieu et la nôtre convergent. C'est bien plus difficile à croire et à accepter quand nos volontés divergent. Quand le chemin sur lequel le Seigneur nous fait passer est difficile, quand nous demandions la guérison et que c'est la maladie qui dure, quand nous demandions le soulagement et que c'est la souffrance qui demeure, quand nous demandions la vie et que c'est la mort qui vient. Il arrive que Dieu dise oui, qu'il accède à notre demande, qu'il ouvre la porte à laquelle nous frappions, qu'il nous fasse trouver ce que nous cherchions, mais il arrive aussi que Dieu dise non, qu'il dise « ma grâce te suffit », qu'il dise non parce que ça serait mauvais pour toi, même si tu ne le comprends pas maintenant. Mais dans un cas comme dans l'autre, Dieu répond toujours. Il répond toujours à la prière persévérante. Si nous avons des enfants, si nous en avons eu, si nous avons vu comment ça marche chez les autres, avec les enfants, nous savons qu'il n'est pas toujours pour leur bien d'accéder positivement à ce qu'ils demandent. Pourtant, ils sont convaincus, comme nous pouvons l'être avec Dieu et avec nos propres demandes, que c'est pour leur bien, que leur vie dépend de notre oui. Ça, c'est quand ils sont adolescents. Mais nous, parents, nous avons une vision plus large des choses. Nous avons un peu plus vécu, nous avons un peu plus d'expérience. Et nous savons que leur bien passe parfois par une réponse négative. Et la réponse négative, elle vaut autant que la réponse positive. Dire non est aussi valable que dire oui. Dire non, c'est aussi pour le bien de l'enfant. Ce n'est pas que quand je dis oui que c'est pour son bien. Notre allusion à la relation enfant-parent nous amène à la troisième partie de notre texte, où Jésus fait une analogie dans la relation père-fils, avec la relation père-fils. La parabole, la promesse, maintenant l'analogie. Une manière d'enfoncer le clou au cas où il ne serait pas encore complètement enfoncé. Verset 11, « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» L'analogie est donc faite avec un père et ce qu'il donne à son fils quand celui-ci lui demande à manger. S'il lui demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent ? S'il lui demande un œuf, va-t-il lui donner un scorpion ? Bien évidemment que non. Tout père digne de ce nom, toute mère digne de ce nom, donnera le meilleur à son enfant. Alors même qu'il est mauvais, dit Jésus. Et dire ici au verset 13 que le Père et les disciples sont mauvais, si donc vous, tout mauvais que vous êtes, c'est faire allusion à la nature pécheresse de tout homme, qui est ici à l'évidence une présupposition de base de Jésus. Tout homme est pécheur, c'est ce qu'il faut comprendre. Derrière cette affirmation, si donc vous, tout mauvais que vous êtes. Le point avancé par Jésus n'est pas la nature pécheresse. Pourtant, le point avancé par Jésus n'est pas la nature pécheresse de tout homme, mais c'est le fait que malgré cela, malgré le fait que nous sommes pécheurs, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Et le raisonnement qui suit au verset 13 est un raisonnement a fortiori. À combien plus forte raison, dit Jésus, le Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants ? Si vous, les gens mauvais, avec votre nature pécheresse, vous êtes en capacité de ne pas donner de mauvaises choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est parfait ? Donnera-t-il de bonnes choses, le meilleur à ses enfants ? Et le meilleur, c'est la promesse spécifique du verset 13, où il est question du don du Saint-Esprit. Et ça nous amène à notre quatrième et dernière partie, la promesse spécifique. Le don pour Jésus du Saint-Esprit est le don par excellence. Le don par excellence qu'il donne à quiconque le demande. C'est extraordinaire. La question que je pose ici concerne celles et ceux qui ont reçu ce don de l'Esprit-Saint, qui sont passés par la nouvelle naissance. Faut-il, en nous appuyant sur ce verset 13, continuer à demander le Saint-Esprit ? Si je suis chrétien, si je suis né de nouveau, si l'Esprit de Dieu est déjà venu faire sa demeure en moi, faut-il néanmoins continuer à demander le Saint-Esprit ? Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est le moment dans l'histoire du salut où Jésus fait cette promesse. Et nous nous situons bien évidemment avant la Pentecôte, avant que l'Esprit Saint ne soit donné à l'Église. Ce que les disciples et tous les juifs pieux qui attendaient la réalisation de la promesse du Saint-Esprit ne savaient pas au moment de notre texte, c'est que cette promesse était sur le point d'être accomplie. Et à la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu et a été donné aux disciples. Et depuis, tous ceux qui croient en Jésus sont baptisés du Saint-Esprit, reçoivent l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure en eux, qui les équipe de ses dons pour qu'ils puissent servir Dieu et qui fait grandir en eux son fruit. Il semble évident, en replaçant les choses dans leur chronologie, que Jésus fait ici allusion au don de l'Esprit à la Pentecôte. Ce qui veut dire que si je suis chrétien, je n'ai pas à continuellement demander que Dieu me donne son esprit, comme si par moment je l'ai, puis le jour d'après je ne l'ai pas, et puis il est là, puis il n'est pas là. Mais la question demeure néanmoins, parce que Jésus pose cette question, ou dit cette affirmation. Faut-il continuer à demander le Saint-Esprit si je suis chrétien? Que faire de ce verset? Je dirais premièrement non pour la raison que je viens d'évoquer. À savoir que je crois, avec ce que je comprends de l'Écriture, que le Saint-Esprit est donné à tous les enfants de Dieu et qu'il est donné pleinement dès que ceux-ci mettent leur confiance en Jésus et en son œuvre. Mais vous le savez, certains chrétiens pensent que ce n'est pas le cas, et que le Saint-Esprit n'est pas donné entièrement à la conversion, et qu'il faut ensuite une deuxième expérience de l'Esprit. Et le don de l'Esprit dont Jésus parle ici est alors compris comme cette deuxième expérience, cette expérience charismatique. Personnellement, je ne vois rien de probant dans l'Écriture pour aller dans cette direction. Mais j'aimerais souligner que quasiment tout nos chants qui parlent du Saint-Esprit ont quelque chose qui est en lien avec cette demande qu'il faut faire et réitérer. Je dirais non pour cette raison-là, et puis je dirais oui pour deux raisons. Oui, quand je prie pour le salut de quelqu'un. C'est extraordinaire de savoir que Dieu donne son esprit à quiconque le demande. Alors il ne va pas le donner parce que je demande pour la personne, il le donnera quand la personne le demandera pour elle-même. Mais je peux prier pour que cela arrive. Et je dois prier avec persévérance pour le salut de ceux qui sont sur mon cœur. Oui, donc, quand je prie pour le salut de quelqu'un, en sachant que Dieu ne force personne, et que ma prière ne remplacera jamais celle de la personne concernée. Et puis oui aussi, quand je demande à Dieu la plénitude de son esprit, quand je lui demande que son esprit remplisse toute ma vie. Et vous savez qu'il y a des textes qui font allusion à cela. Je citerai simplement celui de la lettre aux Éphésiens, où l'apôtre Paul dit « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais, ne soyez donc pas sans intelligence mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche, au contraire, soyez remplis par l'Esprit. » Parlez, etc. Soyez remplis par l'Esprit. Là, on pourrait partir pour une nouvelle prédication, mais je ne vais pas le faire. J'aimerais juste souligner une chose, à savoir que avoir l'Esprit de Dieu et être rempli de l'Esprit de Dieu sont deux choses différentes. Et dans cette optique-là, dans l'optique de la plénitude du Saint-Esprit, je peux demander à Dieu, non pas qu'il me donne son Esprit, mais qu'il me remplisse de son Esprit, que son Esprit envahisse chaque recoin de ma vie. Et dans ce sens-là, je pense que l'on peut le rattacher à notre verset 13 et à cette demande, à cette affirmation de Jésus. Et quand nous demandons cela, si nous le demandons avec persévérance, parce que c'est important pour nous que Dieu dirige notre vie et que son Esprit soit aux commandes de chaque détail de notre vie, si nous demandons avec persévérance, alors Dieu va exaucer cette prière. Dieu exauce-t-il toujours nos prières? Pour éviter toute ambiguïté, il faut reformuler notre question et dire: Dieu répond-il toujours à nos prières? Et avec ce passage de l'évangile de Luc, nous pouvons répondre que oui. Oui, Dieu répond toujours à la prière persévérante. Il aime donner de bonnes choses à ses enfants. Il aime par-dessus tout leur donner son Esprit et le donner avec plénitude. Mais il aime aussi que nous manifestions que ces choses sont importantes pour nous en persévérant dans nos requêtes. Ne nous privons pas de faire à Dieu nos demandes, mais faisons-les toujours dans la soumission à sa volonté, qui seule est bonne, agréable et parfaite. Et soyons assurés, parce que Jésus l'a dit, qu'il répond toujours à nos prières persévérantes. Amen.